Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie pour le bon temps de louange que tu nous as donné, Seigneur, pour qu'on puisse te chanter des chants et se rappeler toujours de tout ce que tu as fait pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Tu nous as donné la vie éternelle, tu as fait de nous tes enfants, puis un jour on va te rejoindre, Seigneur. On va se retrouver à être avec toi pour toute l'éternité. Ça va être spécial. Je te remercie de ce que tu as déjà payé pour tout et toute l'œuvre que tu continues à faire à chaque jour dans nos vies. Je te demande, Seigneur, ce matin, de nous ouvrir grand nos yeux et nos oreilles, qu'on comprenne le message de ce matin, afin que quand on va faire la Sainte Cène par la suite, mais qu'on puisse être vraiment imprimé dans notre esprit de ta pensée quand on va la faire. Je remets cette réunion entre tes mains dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. On continue une étude sur les premiers pas. Le sujet d'aujourd'hui qu'on va voir, c'est le chrétien et la Sainte Cène. La Sainte Cène, on appelle ça Sainte Cène, c'est appelé aussi le repas du Seigneur, parce que ça, c'est ça que ça représente. C'est une scène que Jésus a vécue avec ses disciples, puis il y avait un enseignement spirituel dans ce repas-là que le Seigneur a pris avec ses disciples. Puis c'est une activité à pratiquer dans l'Église du Seigneur depuis le départ de Jésus. On va comprendre, on va aller étudier ça en profondeur, puis on va comprendre pourquoi que c'est depuis ce temps-là qu'on pratique cela. Nous verrons dans ces quelques versets qu'il s'y trouve un profond enseignement révélé par la Bible au niveau de la Sainte Cène. Souvent, nous autres, quand on pratique la Sainte Cène, on est dans le milieu d'une réunion, on oublie quasiment qu'on vienne de louer le Seigneur, on passe le pain puis le vin, puis on fait une prière, on prend le pain et le vin, puis tout de suite après, on passe à d'autres choses. Puis des fois, je me demande, est-ce que vraiment tout le monde qui ont pris le pain et le vin ont vraiment conscience à quoi que ça sert de le faire, puis qu'est-ce que ça peut apporter aux croyants. Moi-même, je l'ai pris, ça fait 30 ans que je suis chrétien, fait que je l'ai pris pas mal plus que quelques fois. Puis des fois, j'étais pas dedans quand je le prenais. Je pensais pas à qu'est-ce que je faisais. On le prend bien vite, puis on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas toujours une étude sur le sujet juste avant de l'apprendre, fait qu'on oublie pas mal à quoi que ça sert. Puis c'est le but aujourd'hui de comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu nous enseigner dans la Sainte Cène, dans le repas du Seigneur, dans ce qu'il nous demande de pratiquer. Pour commencer, on va aller lire un verset dans Luc 22:15 qui nous dit « Comment Jésus a-t-il célébré le repas de la Pâque avec ses disciples? » Luc 22 nous dit, c'est Jésus qui parle, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Ça, c'est Luc 22. « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Ce verset-là n'était pas réellement, ne faisait pas partie de la scène. Mais Jésus dit ça avant de prendre le repas avec ses disciples. C'est quelque chose que Jésus avait à cœur. C'est quelque chose que Jésus tenait absolument à faire. C'est pas quelque chose juste à la sauvette qu'il a pratiqué avec ses disciples. Vite, vite, faut le faire, puis après ça, c'est passé, puis on fait d'autres choses. Non. Jésus savait qu'il s'en allait mourir sur la croix quelques heures plus tard. Qui de nous, si on sera au courant qu'on a une peine de mort qui nous est donnée, là, qu'on désirera pas passer un bon moment en famille ou entre frères et sœurs avant de partir? Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il savait qu'il s'en allait, puis pas juste d'une manière simple, il a fallu qu'il s'en aille souffrir, il a souffert atrocement en mourant sur la croix. Juste avant, Jésus il a désiré vivement faire cette Pâque. C'était quelque chose de spécial qu'il est en train de faire. Puis l'enseignement qu'il a donné dans cette Pâque-là, c'était spécial aussi. Jésus, ce n'était pas la première fois qu'il célébrait la Pâque avec ses disciples. Pourquoi que je dis ça? Parce que les Juifs, la journée de Pâques, c'est une fête bien spéciale toute la semaine. Il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête des prémices, il y a la fête de Pâques, il y a le sabbat. Tout ça arrive dans la même semaine, c'est une fête extrêmement fête. Des fêtes extrêmement fêtées avec les Juifs. Puis ça lui rappelle quoi, la Pâque? Mais la Pâque, c'est un moment glorieux, c'est un moment de réjouissance. Pourquoi? Parce que, je ne me rappelle plus combien de temps, je pense que c'est 1000 ans avant, le peuple juif est sorti d'Égypte par la puissance de Dieu, que Dieu a libéré son peuple, puis a fait sortir de l'Égypte son peuple, puis le dernier des fléaux, dernier des fléaux que Dieu a envoyé sur le peuple juif, c'est là que la première Pâque a été célébrée. Il a dit, vous allez vous mettre en groupe d'une famille ou deux familles, vous allez prendre un agneau, vous allez le faire rôtir, vous allez tout le manger, vous allez passer la nuit à faire cette fête-là ensemble, puis vous allez prendre du sang de cet agneau-là, vous allez mettre ça sur le cadrage de vos portes puis le cadrage de vos châssis, puis l'ange de la mort va passer partout. Tous ceux qui n'auront pas fêté cette fête-là, puis qui n'auront pas de sang sur les cadrages de leurs portes et de leurs châssis, l'ange exterminateur, tu es le premier-né de la famille, de cette famille-là. Fait, puis là, il dit, vous allez sortir en toute hâte, suite après cette fête-là, vous allez prendre vos bagages, puis vite, vous allez vous sauver, vous allez sortir d'Égypte, puis je vais vous faire sortir avec mon bras puissant et mon bras étendu, c'est ce que Dieu dit. Puis le peuple juif ont célébré cette fête-là, la Pâque, pendant 1000 ans. Ben, je ne sais pas combien d'années, mais c'est depuis le temps de la délivrance du peuple juif jusqu'au temps de Jésus, tous les ans, cette fête-là était le 14 du mois de je pense que c'est le mois de Nissan en hébreu. C'est le deuxième mois de leur année. Le premier mois de leur année, le 14e jour du mois, c'est là qu'ils célébraient la Pâque. Puis Jésus était habitué de la célébrer. Il était rendu à plus de 30 ans. Fait qu'il l'avait célébré une trentaine de fois. Mais cette fête-là est importante parce que Jésus a rajouté dans cette fête-là un élément qui n'était pas fêté par les Juifs. On va aller lire son histoire dans Matthieu 26. Comment est-ce que Jésus a fait ça, la Pâque? Fait qu'ils ont préparé l'agneau toute la patente. Au verset 26, ça dit, « Pendant qu'il mangeait, puis même, c'est quasiment fin du repas. Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, puis le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ça faisait pas partie de la Pâque. C'est à cette partie-là particulièrement que Jésus voulait enseigner à ses disciples. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent dans la montagne des Oliviers. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette partie-là? Comment Jésus a célébré la Pâque? Pendant un repas, puis c'était pas un repas ordinaire, c'était le repas de la Pâque. Jésus a pris du pain, il a pris un pain, puis il l'a cassé en morceaux, puis il en a donné un morceau à chacun. Puis il dit, prenez-en tous, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Après ça, il a pris du vin, puis il a dit, buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Là, il dit, j'en boirai plus de nouveau, jusqu'au jour où je vais en boire avec vous dans le royaume des cieux. Hey, c'est quelque chose. Jésus est en train de démontrer une nouvelle vérité pour la Pâque. C'est une vérité qui s'adresse pour le peuple de Dieu. Ça s'adresse aux rachetés. Il nous montre un enseignement spirituel, on va l'avoir un peu plus loin dans les autres versets. Puis ça nous rappelle la mort de Jésus, son sang qui était versé. Qu'est-ce que Paul a-t-il rajouté aux paroles de Jésus? 1 Corinthiens 11, 23. C'est ce passage-là qu'on sert tout le temps quand on en amène la Sainte-Seine. Généralement, on sert toujours ce passage-là. Mais on voit dans ce passage-là que Paul y a dit une parole de plus que Jésus n'avait pas dit. Un Corinthiens 11, 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. » Qu'est-ce que Paul a rajouté dans ces textes-là? Parce que c'est pas exactement les paroles que Jésus a dit. Qu'est-ce que je trouve beau, c'est que le début de la phrase, il dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ça veut dire, Paul n'a jamais rencontré le Seigneur personnellement, humainement parlant. Mais Jésus y est apparu plusieurs reprises à Paul. Puis il dit, dans les actes, Jésus est en train de parler à un moment donné, puis il dit, je vais lui apparaître, puis il va être un témoin de ce que je lui ai apparu, en parlant de Paul, il va être un témoin de ce que je lui ai apparu, et pour les choses que je lui apparaîtrai. Paul a commencé à prêcher dans l'Église des choses que Jésus lui-même lui a révélées en lui apparaissant à plusieurs reprises. Le point que Paul a rajouté dans ce texte-là, c'est la fin du texte. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire la Sainte Seine, le repas du Seigneur que Jésus a fait avec ses disciples, il a pris du pain, il a pris du vin, il l'a distribué, puis il a dit, rappelez-vous ce que je vous ai fait. Il dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Jésus a donné un ordre à Paul, il a dit, va dire à l'Église qu'il continue à faire cette scène-là toutes les fois qui vont être ensemble en train de manger du pain puis de boire du vin. Dieu veut qu'on se rappelle la Sainte Seine. Il veut qu'on fasse cette activité-là en mémoire de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut qu'on fasse ces choses-là pour se rappeler ce que Jésus a fait. Son corps a été rompu puis son sang a été versé pour qu'on puisse être sauvé. Dieu, il ne veut pas qu'on oublie le sacrifice de Jésus. Il ne veut pas qu'on oublie combien que ça a coûté pour qu'on puisse être sauvé. Ça n'a pas coûté la mort de n'importe qui, c'est la mort de Dieu lui-même qui était venu en forme humaine puis qui a accepté de mourir sur la croix pour chacun de nous. Puis il dit, chaque fois que vous allez vous réunir, rappelez-vous, faites ceci en mémoire de moi. Prenez du pain, prenez du vin, puis rappelez-vous tout ce que j'ai fait. Gloire à Dieu. Que retrouvons-nous dans le pain et le vin? Qu'est-ce que je dois comprendre dans le pain et le vin? Il y a d'autres versets qui nous parlent de ça, du pain puis du vin, puis nous donnent un sens spirituel qu'on comprenne davantage le sens spirituel que Jésus voulait qu'on se rappelle. Ça nous rappelle des choses au niveau du passé, ça nous rappelle des choses du moment du présent et du moment de l'avenir. Vous allez comprendre. Que représente le pain au niveau passé? Bien, Luc 22, 19. dans la phrase qu'on lit à propos de la que Jésus a faite la Sainte Cène. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit puis leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Qu'est-ce que ça me rappelle sur une chose qui a été dans le passé pour moi aujourd'hui? Quand je prends du pain, ça me rappelle que son corps à Jésus a été rompu pour moi. Chacun de vous, quand vous êtes en train de prendre la Sainte-Cène, vous avez un morceau de pain, vous n'avez juste un morceau de ce pain-là. C'est-à-dire, Jésus, qui était comme ça représente le pain, a été rompu pour que moi, je puisse en avoir une part. Quand on parle que Jésus a été rompu, c'est qu'il a été mis à mort. Ça a coûté la mort de Dieu pour que je puisse obtenir des participants de ce pain-là. Ça me rappelle une chose du passé, la souffrance que ça a coûté pour que je puisse faire partie du corps de Jésus. Quel enseignement spirituel on trouve dans la Bible au niveau présent? Qu'est-ce que ça me donne aujourd'hui de savoir que je participe au pain encore aujourd'hui? 1 Corinthiens 10, 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Quand je reçois ce morceau de pain-là, qu'est-ce que ça me rappelle dans le moment présent? C'est que quand tu es devenu un enfant de Dieu, tu es rendu participant des souffrances de Jésus, ça te donne possibilité d'avoir un morceau, d'avoir une part de cette œuvre-là que Jésus a faite, puis ça te rappelle que tu fais partie de ce pain-là. Tu fais partie de ce corps-là, puisque tu as une part de ce pain-là, tu fais partie de ce pain-là. Ce pain-là a été brisé pour t'en aille, mais tu participes à ce pain-là et tu fais partie de ce pain-là. Puis nous venons tous d'un même pain. On forme tous un même pain. Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? C'est que moi, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai été racheté. À cause des souffrances de Jésus, j'ai été pardonné, puis maintenant, ça me donne une possibilité d'être greffé à son corps. Je fais partie maintenant de son corps à Jésus. Je suis un membre de son corps. L'ensemble des chrétiens sur la terre, l'Église du Seigneur, fait partie de son corps qui est répandu à travers toute la terre. Nous sommes participants d'un même pain. Fait quand je regarde mes frères et sœurs, comment je les vois, comment je devrais les voir aujourd'hui, au moment présent, mais en considérant le pain, mais lui-ci, mon frère, il a pris un morceau de ce pain-là, puis ma sœur aussi a pris un morceau de ce pain-là, puis chacun de nous qui sommes dans l'Église, on a tout ou un morceau de ce pain-là. On est tous des participants de la souffrance de Jésus, puis à cause de ça, on a tous été greffés au même corps, puis maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, on fait tous partie de la même famille, du même corps. Je peux pas dire à un de mes frères et sœurs dans la foi, « Je veux rien savoir de toi, tu t'en vas. » Non. Jésus lui a donné aussi pour lui un morceau pour qu'il puisse... Que Jésus lui a montré à ce frère-là qui fait partie du même corps, le corps de Jésus. Puis moi aussi, je fais partie de ce corps-là, le corps de Jésus. On participe tous à un même pain. On va aller lire Éphésiens 2, 15 et 16. Une autre vérité qu'on va comprendre à cause du corps de Jésus qui a été rompu, qu'on comprend ce sens-là à cause qu'on participe à la Sainte-Cène. Jésus, là, ayant anéanti par sa chair, quand il est mort sur la croix, là, Jésus, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Autrement dit, tout ce qui nous condamnait dans la loi de Moïse. Tout ce qui nous condamnait dans la loi de Moïse, Jésus, en mourant sur la croix, son corps a été rompu, a été brisé pour moi, afin d'anéantir la loi des ordonnances dans ses prescriptions, tout ce qui me condamnait, ça a été anéanti, afin de créer en lui-même, dans ce nouveau pain-là que je fais partie maintenant, avec les deux, en parlant des deux, quand il parle des deux, c'est les Juifs et les païens, il a créé en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Quand Jésus est mort sur la croix, il a anéanti tout ce qui me condamnait de la loi de Moïse. La loi et ses prescriptions, je suis plus sous ce régime-là. J'ai pas à me sentir condamné, ni à me sentir jugé par la loi, ni à me sentir sous une malédiction de la loi. Je ne suis plus sous la loi. Christ est devenu malédiction pour nous racheter de la loi. Nous ne participons plus aux condamnations de la loi. On est venu maintenant, à cause de ce que Jésus a payé le prix, on fait partie en lui-même d'un nouveau corps. On nous sommes en Jésus. Nous sommes participants de cette nouvelle vie-là, puis ça nous enlève de toutes ces malédictions-là qu'on avait reçues depuis notre naissance. Puis ça nous a donné d'avoir accès à ce corps-là, malgré qu'on était des païens. Parce que les promesses de Dieu étaient pour qui en premier? Pour les Juifs. Puis des deux hommes, ce qu'ils représentent les païens et les juifs, à cause que Jésus a payé le prix, ça a permis d'enlever l'inimitié, d'enlever tout ce qui faisait qu'on était ennemis entre juifs et païens, puis il a formé avec les deux groupes un seul corps. On participe tous au même corps, aux souffrances de Jésus, puis les juifs, comme les païens, nous, on peut prendre un morceau de ce pain-là, de la Sainte-Sainte, puis c'est le corps de Jésus pour moi aussi, comme un juif peut dire, ce corps-là de Jésus était rompu pour moi aussi, puis ça me permet de devenir frère d'un seul homme nouveau, entre juifs et païens, puis on forme tous le même corps maintenant, puis c'est en Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Romains 11, 24. Il y a un autre enseignement spirituel sur le pain qui est comme une continuité de cette idée-là qu'on vient de dire dans ce verset-là. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Ce qu'on doit comprendre, comme j'ai dit tantôt, le salut était Abraham. Puis le salut a été offert premièrement aux Juifs. Fait que quand on parle de l'olivier franc, c'est le peuple juif, l'olivier franc. Jésus est comme l'accomplissement de la promesse de David. Parce que Jésus, il est un descendant direct de David, puis, pas de David, excusez, d'Abraham. Il est un descendant direct d'Abraham. Puis, à Abraham, c'était dit qu'il y aurait un descendant, puis que dans ce descendant, la bénédiction sera répandue à travers toute la terre. Fait que Jésus est le descendant, puis c'est à travers Jésus que la bénédiction a pu atteindre les Juifs et les païens. Au début, ça semblait que les Juifs refusaient, mais on voit dans les Actes qu'il y en a plein de Juifs qui se sont convertis, puis qui ont accepté de faire partie du corps de Christ, puis sont devenus des chrétiens. Comme il y a eu aussi plein de païens d'autres nationalités qui se sont joints pour former un seul corps avec Jésus. Ça dit que nous autres, là, naturellement, on n'est pas venus au monde dans la foi juive. On est venus au monde, nous autres ici au Québec, dans la foi catholique. Il y en a d'autres qui sont venus au monde dans la foi protestante. Mais les religions ne sauvent pas personne. Il fallait qu'un jour, je réalise que c'est Jésus qui a tout accompli, que son corps a été rompu, puis son sein a été versé, pour que je puisse être pardonné de mes péchés. Puis au moment où je me suis repenti de mes péchés, puis j'ai demandé pardon, puis j'ai demandé que son sang me purifie, puis que ses souffrances, à cause de ses souffrances, que je puisse être libéré des condamnations de la loi, puis de pouvoir former un seul corps de Jésus, d'avoir cette communion-là avec lui, de pouvoir être greffé à ce cep-là qui n'est pas mon cep original. Moi, je ne suis pas né pour être comme ça, marchant selon les principes des bénédictions des Juifs. Mais j'ai été greffé dans cet olivier franc-là. Puis les Juifs qui n'ont pas cru ont été retranchés. Puis ceux que les païens comme les Juifs qui ont cru ont pu être greffés. Puis maintenant, on est tous greffés au cep. Puis ce cep-là, Jésus il dit, « Je suis le cep. Et vous êtes les serments. » Tous ses disciples à Jésus, juifs comme païens, ont fait partie du corps de Jésus, puis on est tous greffés à Jésus. Gloire à Dieu!
Gloire à Dieu!
Que représente le vin? Pour les choses du passé, le vin, Luc 22, 20, il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Qu'est-ce que je dois comprendre quand je prends la coupe? Là, j'ai une petite coupe là, avec du jus de raisin dedans. Mais pourquoi je prends ça? Il dit, « Cette coupe, parce que ça vient tout du même pot, de la même coupe. Il y avait une coupe, mais tout le monde a bu à la même coupe. Nous autres, on prend comme un flocon de jus, je ne sais pas si ça vient tout du même bocal, on en donne une petite partie à chacun. Notre jus qu'on a là-dedans, ça représente quelque chose. Je dis pas que le pain est réellement le corps de Jésus ou que le jus est réellement son sang. Pas du tout. On fait ces choses-là pour se rappeler ce que ça l'a coûté. Mais en réalité, le jus de raisin, c'est du jus de raisin. C'est pas le sang de Jésus. Je mange pas Jésus en mangeant son corps, puis de boire vraiment son sang. C'est spirituel. C'est un rappel de ce qui s'est passé. Fait que quand je prends la coupe, ça me rappelle une nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Cette alliance-là, tu n'as pas encore créé. Cette alliance-là est annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament, que Dieu créera une nouvelle alliance, qu'il écrira ses lois dans leur cœur, puis qu'il écrira, tu sais, c'est, puis qu'il marchera avec eux, puis qu'on sera son... Il y a plusieurs passages que Dieu parle de nouvelle alliance dans l'Ancien Testament, mais elle n'avait pas encore été accomplie tant que Jésus n'avait pas encore été... Son corps a été rompu, puis que son sang était versé. Puis c'est à cause que son sang a été versé qu'on le sait que maintenant on est participant d'une nouvelle alliance. C'est quoi une alliance? C'est comme un mariage, c'est comme un contrat que tu fais avec une autre personne. C'est quelque chose que tu fais avec une autre personne puis qui t'allie avec, qui te soude avec. À cause de cette alliance-là, tu as comme un pacte, tu as comme un traité de un traité, quelque chose d'écrit, quelque chose de signé par les deux, accepté par les deux, puis automatiquement, ça te lie à quelque chose avec cette personne-là. Puis cette nouvelle alliance-là, il y avait l'ancienne alliance que Dieu a donnée aux Juifs avec, si vous mettez ces choses en pratique, là, il parlait de la loi, vous vivrez par elle. Mais il n'y a pas une seule personne sur la terre qui a pu pratiquer la loi et obtenir la vie éternelle parce qu'il avait tout pratiqué la loi. Tout le monde, il lui manque quelque chose. Même le jeune homme riche, il dit, j'ai tout accompli. Il dit, tu connais le commandement. Il dit, j'ai tout fait. Jésus dit, il te manque encore quelque chose. Va, là, il dit, suis-moi. Puis c'est ça qui manque, c'est de suivre Jésus qui manque. À n'importe qui sur la terre, il manque... Il faut suivre Jésus pour vraiment avoir la justice de Dieu. Il va manquer quelque chose à tout le monde. La loi, c'est à l'ancienne alliance, mais c'est impossible de sauver quelqu'un par l'ancienne alliance. C'est pour ça que Dieu a toujours parlé à travers ses prophètes dans l'Ancien Testament pour annoncer qu'il y en aura une nouvelle alliance et qu'il viendra un Messie. Puis ce Messie-là, il payerait pour les pardons des péchés, puis que les nations de la terre espéreraient en son nom. C'est qui ça? C'est Jésus. Yeshua, son vrai nom. Jésus, c'est une traduction en français. Là, quand je prends la petite coupe de vin, là, ça me rappelle, c'est une nouvelle alliance que je participe maintenant. J'ai un contrat avec le Père. J'ai une alliance avec le Père, mais ça a coûté quelque chose pour que je puisse l'obtenir. Je n'ai payé ni or ni argent. J'ai tout reçu gratuitement, car pour moi, Jésus a versé son sang. Gloire à Dieu! Il a versé son sang pour qu'on puisse... C'est en son sang qui est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance en son sang qui est répandue pour nous. À cause que ce que Jésus a versé son sang sur la croix, après avoir reçu des coups de bâton, des coups de fouette, des coups de poing en face, des crachats au visage, arraché la barbe, il s'est fait battre, il a été cloué par des clous dans les mains puis dans les pieds, il a été suspendu au bois puis il est mort. Puis là, il saignait partout, puis en plus, un garde qui a pris une lance puis a percé son côté puis a sorti du sang et de l'eau. Tout ça pour nous dire qu'il a versé son sang puis qu'il en est mort. Mais à cause de sa mort, j'ai une possibilité aujourd'hui de participer à cette nouvelle alliance en son sang. Quand on prend le pain, ça nous rappelle qu'on est participant de son corps qui a été brisé pour nous. Puis on prend le vin, ça nous rappelle qu'on participe à son sang, qui est le sang de nouvelle alliance que Dieu a faite avec chacun de nous. C'est le centre, cette révélation-là, là, c'est le centre de l'Évangile. C'est le point central de tout le Nouveau Testament. Si une personne n'a pas compris que son salut est à cause du corps rompu puis du sang versé de Jésus, si une personne n'a pas encore compris que c'est uniquement à cause de ça qu'on est sauvé, elle n'a rien compris. C'est une personne religieuse puis elle est encore perdue. Parce que le salut s'obtient quand tu réalises que Jésus a tout payé. Puis que tu le reçois comme provenant de quelque chose que tu ne méritais pas. Qu'est-ce que le sang nous enseigne aussi? Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait qu'il y ait du sang qui ait été versé pour que le pardon puisse être offert. Ça faisait partie des révélations de Dieu de l'Ancien Testament. Fait que quand je participe au sang, je me rappelle qu'il a fallu que quelqu'un verse son sang pour que je puisse participer à tout cela, pour m'accorder le pardon. Puis c'était le sang de Jésus qui était versé. Puis je continue au verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il faut que je vous explique ça parce que c'est puissant. Il dit, si les choses dans l'Ancien Testament devaient être purifiées par du sang, il dit même les choses célestes, pour que les gens aient accès aux choses célestes, il fallait aussi que ça soit purifié avec du sang. Fait que Jésus il est entré dans le ciel même directement avec son sang. Puis maintenant, il est devant Dieu le Père pour comparaître. Puis le sens du mot comparaître, ça c'est ce qui est dit dans le verset 24. Quand tu as une comparution, c'est quand tu passes en cours. Tu as une comparution, on passe en cours. Il y a comme une cour dans le ciel. Dieu le Père qui est là. Puis le jugement est déjà donné parce que le jugement y est sur le monde. Mais il fallait que quelqu'un y aille comparaître. devant le grand trône de Dieu, devant le trône du jugement de toute la terre, fallait que le sang de quelqu'un soit versé, puis c'était déjà prévu depuis la fondation du monde que le Père enverra son Fils payer, verser son sang. Après ça, Jésus traverserait les cieux, puis il se présenterait devant son Père, devant le grand juge, avec son sang. Il a comparu à notre place, puis il n'a pas reçu de condamnation. Il a reçu la bénédiction pour tout le monde qui voudrait croire en lui. Gloire à Dieu! Il a effacé l'acte qui nous condamnait par son sang. Puis de maintenant, quand on passe en cour devant Dieu, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis il dit, salut, crois au Fils. Il dit, comment est-ce qu'il dit ça dans ce verset-là? Il dit, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On n'y ira pas au jugement pour être condamné comme ceux qui ne l'ont pas pris. Il va y avoir quand même un tribunal de Christ qui est pour les récompenses, mais le jugement de la condamnation, il n'est pas pour ceux qui ont pris le sacrifice de Jésus puis qui participent à la nouvelle alliance. Je continue au verset 25. « C'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Hallelujah! » Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait qu'à tout, à chaque fois qu'une personne faisait un péché, il présentait une offrande à Dieu en sacrifice, puis l'animal, son sang est versé pour que le péché soit pardonné. Puis une fois par année, le souverain sacrificateur y rentrait dans le lieu très saint, puis elle offrait du sang pour lui-même et pour le reste du peuple. Mais Jésus, il n'a pas eu besoin de répéter ce sacrifice-là plusieurs fois. Son sacrifice était excellent devant Dieu le Père. Il a eu souffert qu'une seule fois. Il est allé présenter son sang devant son Père. Puis ça nous accorde que nos péchés ont été abolis. On a le pardon. On n'a plus besoin de penser qu'on est coupable devant Dieu. Une simple parole, « Seigneur, pardonne-moi. » T'es pardonné, t'es toujours à jour devant Dieu. Le sang de Jésus est sur toi, puis te purifie. Fait que quand on prend la Sainte Cène, ça nous rappelle ce que ça a coûté à Jésus de son sang qui était versé. Puis là, maintenant, quel enseignement spirituel nous trouvons dans la Bible pour le moment présent, dans 1 Jean 1,7? Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'est-ce que ça me donne aujourd'hui de savoir que je participe au sang de Jésus? Mais grâce à ce sang-là, j'ai eu accès à pouvoir entrer dans la présence du Père, dans la présence de Dieu, dans la présence du grand Adonai, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je peux rentrer dans sa présence à cause du sacrifice de Jésus, puis là, je peux demeurer dans une communion avec lui, d'un contact permanent. Puis s'il y a quelque chose que je fais encore, je confesse mon péché, puis le sang de Jésus me purifie automatiquement de mes péchés, puis je continue à demeurer dans la présence du Père. Ma communion avec le Père, avec Dieu, est assurée. Par Jésus a tout accompli. Son sang me donne encore accès à demeurer dans la lumière, à marcher en communion avec le Père. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le prochain verset qu'on va aller lire, qu'est-ce que la Sainte Cène nous annonce pour le futur? Qu'est-ce que Jésus voulait qu'on pense quand on participe à la Sainte Cène, puis que ça nous annonce, ça annonce quelque chose? 1 Corinthiens 11, 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chaque fois qu'on participe à la Sainte-Cène, on est en train d'annoncer le retour de Jésus. On est en train d'annoncer sa mort, que c'est grâce à sa mort qu'on a pu avoir accès, jusqu'à ce qu'il vienne. On est en train d'annoncer, on est en train d'évangéliser quand on participe à la Sainte-Cène. On est en train de dire à tout le monde qui nous voit, je participe au corps et au sang de Jésus, puis je vais y participer jusqu'à temps que Jésus revienne. C'est pour ça que Paul a dit, comme j'ai dit au début, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Chaque fois qu'on est ensemble, qu'on est en train de manger ensemble, qu'on est en train de boire ensemble, qu'on est en train de fraterniser, on peut prendre un moment pour se rappeler des souffrances de Jésus, que son corps a été rompu, puis que son sang a été versé, pour se rappeler qu'on participe au corps et au sang de Jésus, puis on va le faire tant aussi longtemps que Jésus est parvenu. Puis en le faisant, on est en train d'annoncer à ceux qui nous entourent qu'on est des participants, puis que Jésus revient bientôt. Gloire à Dieu! Quelle mise en garde la Bible nous dit-elle? Quand on pratique ces choses-là, quand on l'a fait, là, il y a des versets qui nous donnent des mises en garde. 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Wow! Ça veut dire, dans ce verset-là, là, quand on se réunit et qu'on partage le pain et le vin, c'est pas une joke. C'est pas une chose qu'on doit prendre à la légère. Tout croche. On vit dans des bouches la semaine, on confesse rien, on arrive, puis on prend le pain, puis on prend le vin, puis on pense qu'on est sur un party, puis un désordre dans l'église, puis ainsi de suite. Wow, wow, wow! Celui qui va prendre le corps et le sang de Jésus indignement sera coupable. On va continuer à lire d'autres passages. Pourquoi Paul lui a dit ça? Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait un désordre. 1 Corinthiens 11, 20. Lors donc que vous vous réunissez, c'est pas pour manger le repas du Seigneur. Il était supposé de manger le repas du Seigneur, mais là, vous êtes plus en train de manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. L'un a faim parce qu'il n'avait rien à manger. L'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Ou faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je, vous louerai-je? En cela, je vous loue point. Les Corinthiens étaient sur le party quand ils faisaient ce repas-là. Ils prenaient plus ça d'une manière digne. Il mangeait, il y en a qui étaient rendus bien remplis de bien manger puis bien boire, puis il y en a d'autres dans l'église qui n'avaient rien à manger parce qu'ils étaient pauvres. Puis ça crée un désordre dans le corps de Jésus. Les gens ne reconnaissaient plus qu'on participait tous au même corps. Puis que le pauvre comme le riche participe au même corps. Puis que tout le monde devait pouvoir s'approcher et manger ensemble et n'en prendre. Tandis que celui qui n'avait beaucoup, lui, se remplissait le ventre, puis l'autre crevait de faim, puis il donne à rien, puis il dit, t'es coupable envers le corps du Seigneur. Tu discernes plus que les autres brebis font aussi partie du corps du Seigneur. T'es en train de prendre ça d'une manière indigne, puis tu t'attires un jugement de Dieu. Que dois-je faire avant de participer à la Sainte-Cène? 1 Corinthiens 11, 28. Paul il nous dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. On doit s'éprouver soi-même. Puis après ça, ouais, quand on s'est mis à l'épreuve nous autres-mêmes, qu'on s'est analysé, qu'on a regardé notre vie, puis qu'on a commencé à confesser des choses qui ne sont pas de Dieu dans notre vie, pour faire le ménage. Pour arriver, je participe au corps, au sang, on prend ça, on n'a rien confessé à Dieu, puis on prend ça à la légère, puis après ça, on s'en va, puis c'était pas grave. Non? Wow, 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 faut prendre ça dignement. Il dit que chacun s'examine lui-même. On fait le point dans notre vie. On regarde, on est en train de marcher dans la foi? Je suis en train de considérer le reste du corps? Je suis en train de comprendre que quand je prends le pain, c'est le corps de Jésus qui a été rompu? Quand je prends le vin, c'est le sang de Jésus qui a été versé? Il faut que ça soit d'une manière digne. Si on pense à la légère, on s'attire un jugement du Seigneur. Que risque celui qui la prend avec indignité? 1 Corinthiens 11, 29. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Si on prend ça à la légère, on prend ça, puis on pense à rien, puis on pense à l'émission de télévision qu'on va aller écouter en sortant de l'église. On pense à nos paiements qui vont passer. On prend le pain et le vin, on pense à rien. On reconnaît plus le corps de Jésus. On mange, puis on boit, puis l'autre n'a rien à manger. Puis il y a un désordre. Il n'y a plus une attitude de dignité, de respect. Hey, c'est le corps de Jésus qui a été rompu pour que je puisse être participant. C'est le sang de Jésus qui a été versé pour que je puisse être participant, puis être pardonné, puis faire partie de ce corps-là. Puis mes frères et sœurs aussi qui sont là font partie du même corps. Et il dit, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Puis c'est là qu'on voit des versets, juste après. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont parmi vous qui sont infirmes, malades, que d'autres sont morts. C'est parce qu'ils ont été jugés par le Seigneur pour ne pas être jugés avec le monde. On n'est pas sur la malédiction à cause que ça s'est arrivé. On est encore des enfants de Dieu. Mais ça arrive que Dieu serre la vis, que Dieu frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Parce qu'on n'aura pas peur à la perdition de ceux qui sont perdus, mais il châtie, corrige ceux qu'il aime, ceux qui reconnaissent ses fils. Puis des fois, Dieu voit qu'on prend les choses à la légère, puis là, il nous frappe une maladie, une souffrance, un problème. Puis c'est dans le but de nous ramener, puis qu'on participe pas aux malédictions des autres. Il n'y a pas de malédiction pour les chrétiens, à moins que vous abandonnez le Seigneur. C'est simple. Tant que vous restez dans la foi, vous êtes dans la grâce, puis vous êtes dans les bénédictions. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est pour nous. On va finir avec un dernier verset. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Quand je participe au sang de Jésus, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure que le sang de Jésus me procurait? De pouvoir être purifié de nos péchés pour que je demeure dans la communion avec le Père. Pour que je marche dans la lumière. Là, il dit, ce sacrifice-là était accompli, mais ça va aussi vous purifier vos consciences des œuvres mortes. Ça va vous libérer dans vos consciences des choses qui ne sont pas du Seigneur. Il y a une purification, il y a une sanctification par la puissance du sang de Jésus qui nous libère de toute œuvre morte si on s'en sert et qu'on confesse, qu'on invoque le sang de Jésus pour nous purifier. Il nous libère afin qu'on puisse le servir. C'est ça que ça dit dans le verset. Voulez-vous devenir des vrais serviteurs de Dieu? Mais Jésus a déjà tout accompli pour que vous puissiez être participants de cette nouvelle alliance. Puis en plus de ça, vous gardez en communion avec lui, puis être purifié de vos péchés, puis qu'il n'y a rien qui vous empêche d'obtenir vos délivrances, vos restaurations, vos guérisons, vos transformations, être purifié même des mauvaises œuvres mortes que vous avez dans votre conscience, pour que vous puissiez pleinement servir le Dieu vivant. Les œuvres mortes, c'est les œuvres qui ne font pas partie du plan de Dieu. Mais qu'on pratique encore aujourd'hui, quand que Jésus dit, ça revient au même passage, il dit, vous êtes les serments, vous êtes branchés au cèpe, moi je suis le cèpe, vous êtes les serments. Là, la sève de Dieu coule en nous, c'est l'Esprit Saint. Puis qu'est-ce que Jésus a dit qu'il ferait? Il nous émonde. Afin qu'on porte encore plus de fruits. Ça veut dire qu'il coupe de notre vie ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est inutile, nos parts de temps, nos œuvres mortes, c'est les choses qui ne servent à rien pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Puis tranquillement, veut, veut pas, quand on grandit dans le Seigneur, on se sanctifie. Dieu nous guide à être libérés de plein de choses qu'on pratiquait avant, qu'on a pratiquées dans notre vie, puis qu'on est de plus en plus consacrés au Seigneur. Sentez-vous que le Saint-Esprit vous amène à vous sanctifier? Quand vous êtes en prière chez vous, sentez-vous que le Saint-Esprit vous montre des affaires puis vous dit de lâcher ça, puis de poursuivre ça, puis dans votre cœur, ça vous dit, là, faut que je me consacre encore plus au Seigneur. Je vais prendre plus de temps avec le Seigneur pour prier, prendre plus de temps pour lire la parole, prendre moins de temps avec les jeux ou avec les ordinateurs ou avec les télévisions ou avec moins de temps dans mes loisirs, plus de temps pour Dieu. Ah, à soir, je pourrais écouter un film, mais il y a de l'œuvre à faire, il y a une réunion, je vais à la réunion, je vais m'impliquer. On veut toujours en faire plus. Mais c'est ça, Dieu coupe ce qui n'est pas de lui, il te le montre, il te purifie de ta conscience, de toutes ces œuvres mortes-là qui t'emmènent tout haut à faire des chemins qui n'est pas le sien. Puis là, il te ramène de plus en plus dans le bon chemin.